tous. Voici l'émission de l'Église protestante unie de Chartres, Beauce et Perche, animée par Jean-Paul et Marie-Christine de Vels. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour Marie-Christine et bonjour à tous.
Jésus n'est pas venu pour juger, mais pour sauver. Ce mot jugement, nous le trouvons souvent dans la Bible et c'est un mot qui fait peur. Mais nous commençons par prier. J'entends le mot jugement, le mot juge, le mot tribunal, et j'ai envie de m'enfuir loin de cette parole, loin de ce texte, Seigneur, même si je n'ai tué personne. Combien de fois j'ai déjà dit « imbécile » à quelqu'un ou de quelqu'un? Combien de fois déjà j'ai insulté quelqu'un ouvertement ou dans mon cœur ou dans une parole adressée à un tiers? Alors, n'y a-t-il aucune échappatoire? Même le plus honnête des hommes ne résiste pas devant une telle parole. Faut-il donc être parfait pour échapper au jugement? Et qu'est-ce que le jugement? Qui es-tu, Seigneur? Le juge grand et redoutable que l'on voit gravé sur les tympans des églises? Qui es-tu, Seigneur? Celui qui trie dans les hommes les méchants et les bons? Je ne sais pas quoi en penser. Et j'ai envie d'arracher ces pages à ma Bible, ou au moins de les tourner rapidement, ces pages qui me condamnent. Viens à mon secours, Seigneur.
Depuis le début de l'histoire humaine, Seigneur, tu cherches la rencontre avec l'être humain. Tu le crées comme un vis-à-vis capable de te répondre. Tu viens parler aux uns et aux autres qui deviennent tes témoins. Ta parole résonne depuis toujours dans une langue humaine, parole transmise oralement de bouche à oreille. Puis, de peur d'en perdre la trace, les hommes l'écrivent sur des supports multiples et surtout dans des textes multiples. Ta parole reste vivante, car aucun des textes ne peut l'enfermer définitivement. Que ces textes, assemblés depuis des siècles en un seul ouvrage, la Bible, reprennent aujourd'hui à nouveau vie. Que ton esprit souffle sur les pages, qu'il souffle dans nos cœurs pour que nous saisissions ta parole vivante, qu'il souffle dans notre intelligence, qu'il aiguise notre capacité à comprendre que là où les définitions ont enfermé ta parole dans un carcan, ton esprit, lui, nous ouvre l'horizon.
La première lecture est dans le livre de l'Exode, au chapitre 34, les versets 5 à 9. Le Seigneur descendit dans la nuée, se tint là avec lui, et Moïse proclama le nom de Seigneur. Le Seigneur passa devant lui et proclama « le Seigneur Dieu miséricordieux et bienveillant, lent à la colère, plein de fidélité et de loyauté, qui reste fidèle à des milliers de générations, qui supporte la faute, la révolte et le péché, mais sans rien laisser passer, qui poursuit la faute des pères chez les fils et les petits-fils sur 3 et 4 générations. » Aussitôt, Moïse s'agenouilla à terre et se prosterna, et il dit, « Si vraiment j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô Seigneur, que le Seigneur marche au milieu de nous. C'est un peuple à la nuque raide que celui-ci, mais tu pardonneras notre faute et notre péché, et tu feras de nous ton héritage. »
Et la deuxième lecture du jour se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, les versets 14 à 21. Et comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit ait en lui la vie éternelle. Dieu, en effet, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Qui croit en lui n'est pas jugé. Qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré l'obscurité à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. En effet, quiconque fait le mal hait la lumière et ne vient pas à la lumière, de crainte que ses œuvres ne soient démasquées. Celui qui fait la vérité vient à la lumière pour que ses œuvres soient manifestées, elles qui ont été accomplies en Dieu.
Invisible. Guide you, invisible hands will show you the way. Have faith in the Lord, He's always beside you, so pray and believe and help. From invisible hand, invisible hand, invisible
hand. La liste des lectures bibliques de ce dimanche nous propose donc, dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, les versets 16 à 21. C'est la deuxième partie du dialogue de Jésus avec Nicodème. La première partie, au début du chapitre 3, est plus connue. Il est sur le thème de la nouvelle naissance et de la liberté de l'esprit. Si un homme ne naît de nouveau, ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit.
Dans la deuxième partie du texte que nous avons lu, c'est le verset 16 qui est très connu. La suite sur le thème du jugement est beaucoup moins connue et citée. Le verset 16, vous le connaissez par cœur. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » On connaît moins le verset suivant, le verset 17. « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger les hommes, pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. »
Nous retrouvons dans ces deux versets les thèmes importants de l'évangile de Jean. Dieu amour, le monde, le don du Fils, croire en Jésus, la perdition et la vie éternelle, le jugement et le salut. Durant cette émission, je vous invite à réfléchir quelques minutes sur le thème du jugement. Une chose est sûre, nous les hommes, et surtout nous les chrétiens, les disciples du Christ, nous sommes exhortés à ne pas juger. Cela se trouve dans le sermon sur la montagne de Jésus au début de Matthieu, de l'évangile de Matthieu au chapitre 7. « Ne jugez pas afin de ne pas être jugés. » Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil ?
C'est un humour peut-être un peu gros, mais très efficace. Il est vrai, en effet, que si j'ai une poutre dans l'œil, je suis totalement aveugle, bien incapable de discerner une paille dans l'œil de mon frère, bien incapable même de voir ce qu'il y a dans son œil, ni même d'apercevoir mon frère. Or, semble dire Jésus, chaque fois que nous jugeons un frère, nous sommes dans cette situation de ridicule et d'hypocrisie. L'homme ne peut pas se mettre à la place de Dieu pour juger l'homme. L'homme n'est pas Dieu. Je n'ai pas à juger mon frère. La seule chose dont j'ai besoin, c'est d'être pardonné moi-même, c'est d'être guéri moi-même. C'est que Dieu me sauve en enlevant la poutre de mon œil, ou la paille, comme on voudra.
Mais Dieu alors, Dieu ne juge-t-il pas? Pourquoi parler toujours de l'amour de Dieu et jamais du jugement de Dieu? Le thème du jugement de Dieu est fort et revient fréquemment dans la Bible, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Dieu fait alliance avec Noé, avec Israël, avec nous. Mais Dieu a donné aussi une loi à Israël, le Décalogue, pour concrétiser son alliance, pour se rendre constamment présent dans nos vies, pour que nous nous souvenions de lui. Ce Décalogue est toujours valable pour nous aujourd'hui, pour nous aider à vivre, pour nous montrer un chemin, pour nous aider à vivre libre.
If in the sun or a star you walk, you never walk alone. When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of a storm, there's a golden sky and the sweet silver song of a love.
Radio Grand Ciel, avec à la technique Simon Martin, émission de l'Église protestante unie de Chartres. Nous vous parlons aujourd'hui de Jésus venu dans le monde, non pour juger, mais pour sauver. Les extraits musicaux sont des négros spirituoses chantés par le Golden Gate Quartet. Et Dieu est un Dieu qui juge. Le verbe chapat en hébreu, le verbe krino en grec, d'où le mot krisis, jugement, crisis également, la crise. Il semble qu'il y ait constamment un procès entre Dieu et l'homme, ainsi qu'entre l'homme et Dieu. L'homme respecte mal sa part de contrat, l'obéissance à la loi. Il conteste, il oublie, il est infidèle, il désobéit, il met en doute. Dieu a-t-il vraiment dit ?
Et Dieu est obligé de juger, parce que Dieu est un Dieu juste et vrai. Il faut appeler noir ce qui est noir, il faut nommer péché ce qui est péché. Nos actions ne sont pas indifférentes, nous en sommes responsables. Nous vivons notre vie sous le regard de Dieu, qui est un Dieu de vérité et de justice, un Dieu juge.
Heureusement, d'ailleurs, qu'il y a un juge juste. Heureusement qu'il y a une référence solide. Les psalmistes évoquent parfois ce Dieu juge, au psaume 58. Et les humains diront, oui, il y a une récompense pour le juste. Oui, il y a un Dieu qui exerce le jugement sur la terre. Au psaume 94, l'Éternel ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son héritage, car le jugement sera conforme à la justice. Et au psaume 82, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu, il juge au milieu des dieux.
Jusque à quand jugerez-vous avec injustice et aurez-vous égard à la personne des méchants. Faites droit aux faibles et à l'orphelin. Rendez justice aux malheureux et à l'indigent. Libérez le faible et le pauvre. Arrachez-les à la main des méchants. » Et dans le psaume 119, le thème du jugement de Dieu revient sans cesse. « Tu es juste, ô Éternel, et tes jugements sont droits. »
Et au verset 75, où Dieu est à la fois le Dieu qui juge et le Dieu qui pardonne, « Je reconnais, Éternel, que tes jugements sont justes. C'est par fidélité que tu m'as humilié. Que ta bienveillance soit donc ma consolation, selon ta promesse à ton serviteur. »
Dans l'Ancien Testament, Dieu est à la fois juste, il juge nos actes, il récompense, il punit, et à la fois miséricordieux, il pardonne, il oublie nos fautes, nos péchés. Il est très important, je crois, de dire ces deux choses simultanément. Savoir que Dieu juge nos actes, notre vie, est rassurant. Il est donc présent. Il n'est pas indifférent. La vie n'est pas absurde. Il vaut la peine d'obéir à sa loi, de respecter ses commandements. Dieu est un recours. J'en appelle à lui des malheurs du monde et de l'injustice des hommes. J'en appelle à lui de la tyrannie des tyrans, de l'oppression des oppresseurs, de la cruauté des hommes méchants et sanguinaires.
Dieu est un Dieu qui voit, qui approuve et désapprouve, qui récompense et châtie. Il prend à cœur la cause des malheureux et des opprimés, de la veuve et de l'orphelin. Les apocalypses qui foisonnaient dans le judaïsme au temps de Jésus et notre apocalypse de Jean de la Bible rappellent le grand jugement de Dieu, ce jour de l'Éternel où le mal sera totalement vaincu, où le juge suprême consolera et sauvera les justes persécutés et renversera le trône et la puissance des orgueilleux. L'Apocalypse est donc écrite pour rassurer et non pour effrayer.
Mais Dieu est aussi un Dieu qui pardonne. Car sinon, quel est l'homme qui pourrait se tenir devant lui et dire « Je suis sans péché » Ce sont les prophètes qui parlent de ce grand procès où Dieu apparaît à la fois comme notre juge et notre avocat. Vous savez d'ailleurs que dans le Nouveau Testament, le nom donné au Saint-Esprit par Jésus, c'est le Paraclet, c'est-à-dire le Consolateur, l'Avocat. Vous connaissez bien le début du livre du prophète Ésaïe. « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme de la neige. S'ils sont rouges comme l'écarlate, ils deviendront comme de la laine. »
Et l'autre passage célèbre du prophète Ésaïe, le début du chapitre 40, ce qu'on a appelé le livre de la consolation. « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que son combat est terminé, qu'elle est graciée de sa faute, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de ses péchés. »
The trouble I've seen, nobody knows but Jesus. Nobody knows the trouble. Sometimes I'm up, sometimes I'm down. Oh, yes, Lord. Sometimes I'm almost to the ground.
Dans le Nouveau Testament, Jésus lui aussi parle de juger et de consoler, de punir et de pardonner. Dans l'Apocalypse qu'il décrit dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 24-25, dans cette grande fresque sur la fin des temps et le jugement dernier, il révèle que chacun de nos actes, chacun de nos gestes, spécialement envers les plus petits, les plus malheureux de nos frères, est pris en compte et jugé. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. Nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Car chaque fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ici, c'est le Christ ressuscité lui-même qui est juge et roi. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, dit Matthieu, avec tous les anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui, il séparera les uns d'avec les autres, etc.
Mais dans l'évangile de ce jour, sans nier qu'il y ait un juge et un jugement, et sans nier qu'un jour Jésus lui-même soit le juge de nos vies, l'évangile de ce jour insiste sur la mission bien précise de Jésus sur la terre, sur le fait qu'il s'agit bien ici d'un évangile, donc d'une bonne nouvelle, de l'annonce d'une libération, d'une nouvelle possibilité de vivre, d'une nouvelle naissance, d'un pardon et d'un salut. Jésus n'a pas été envoyé dans le monde pour juger, mais pour sauver. Non pour faire périr, mais pour faire vivre. C'est le magnifique verset que nous avons déjà lu tout à l'heure. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui.
Il y a bien un jugement, certes. Jésus ne nie pas le jugement. Le jugement, c'est notre vie gâchée, pécheresse, brisée, perdue. Le jugement, c'est notre désespérance, notre incapacité, notre mort. Notre jugement est déjà là, inutile d'en rajouter. La culpabilisation, nous savons ce que c'est, comme l'autoculpabilité. C'est une paralysie de plus dans nos vies, une arme de plus de Satan pour nous accabler. On croit que Dieu est l'accusateur, mais c'est faux. C'est à Satan qu'est donné ce nom d'accusateur. Le Satan, l'accusateur, le calomniateur, celui qui condamne.
Dieu n'accuse pas, il juge pour nous aider, pour nous pardonner. Celui qui ne croit pas au Fils de l'homme est déjà jugé, dit Jésus. Autrement dit, il reste dans sa misère et dans son malheur. Il refuse la main tendue pour le sauver et il continue à se noyer. Le jugement, dit Jésus, c'est que la lumière est venue dans le monde et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises.
L'Évangile n'est pas un jugement, mais un salut. Il n'est pas condamnation, mais pardon. Il n'est pas culpabilisation, mais justification. Dieu a fait alliance avec nous, une alliance d'amour. Il nous a donné sa loi pour nous aider à marcher, à structurer nos vies sous son regard et avec son accompagnement. Au cœur de notre misère, de notre désespoir, nous avons entendu comme la voix d'un appel du Père. Nous avons fait alors un retour vers lui, une conversion vers Dieu, comme le fils prodigue quand il fut au plus profond de son désespoir.
Aujourd'hui, il nous est demandé de croire et de vivre. Celui qui croit au Fils de l'homme, à l'envoyé de l'amour du Père, n'est pas jugé, il a la vie éternelle. Jésus nous a promis de ne jamais nous laisser seuls dans cette aventure nouvelle. Il nous a promis l'aide et la présence constante de son Esprit de résurrection, qu'il appelle le paraclétos, le consolateur, l'avocat. Non pas pour nous juger et nous accabler, mais au contraire pour nous consoler, nous rassurer et nous ressusciter. Je prierai le Père et il vous donnera un autre paraclet, un autre consolateur qui soit éternellement avec vous, l'Esprit de vérité.
Ce Saint-Esprit qui est en nous, qui prie en nous, qui est avocat, pour nous persuader que nous sommes enfants de Dieu, enfants du Père, non pas jugés, mais pardonnés. L'Esprit lui-même, dit Paul dans son Épître aux Romains au chapitre 8, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la peur, mais nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Oui, dit Jésus, je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver ce monde que Dieu a tant aimé. Amen. Je vous dis au revoir et à bientôt sur Radio Grand Ciel.
Au revoir et à bientôt.
Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Alone. I'm a lost.